Vous allez avoir l'explicatif du déroulement de ce chantier, qui est le tarot de Pont de Montvert, parce qu'effectivement, c'est un chantier de 400 ans. La première étape, c'est de récolter, je dirais, les paroles. Comment les gens peuvent imaginer vivre en harmonie, en sachant que pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. Voilà. Et donc, enregistrer des paroles, et dans un second temps, c'est écrire. Alors, il y a des lieux dans lesquels, donc, via le site lescheseimprimées.com, vous arrivez sur une page qui vous indique où est-ce que vous pourrez entendre vos paroles et toutes les paroles qui ont déjà été enregistrées. Voilà, il y a déjà eu des consultations qui ont eu lieu, et ça s'appelle la bibliothèque de nuages. Vous cliquez, vous allez voir, et vous allez pouvoir écouter. Ce sont des MP3, et les gens qui parlent, comme vous allez parler ou pas autour de cette table, hein, c'est toujours un peu. Voilà, moi je ne force rien donc à ce niveau-là. Parfois les gens disent oui, non, moi j'ai rien à dire, je m'en vais. Bon, aucun souci, ça fait partie du jeu. Et dans un deuxième temps, il y a des personnes qui se projettent dans 400 ans dans un blog qui s'appelle 113oracle.org. Là encore, tout ça est indiqué sur le site. Et là, ils écrivent l'avenir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils écrivent l'avenir de façon virtuelle, puisque c'est sur un blog. C'est-à-dire que tout ça peut changer. Mais pour vous dire des choses qui sont déjà écrites sur ce futur, alors qu'est-ce qui se passe dans 400 ans? Comment est-ce qu'on a cette harmonie? Pour les gens qui ont commencé à écrire, évidemment, tout ça peut changer. Vous pouvez le faire changer en écrivant autre chose, en imaginant autre chose, en le modifiant, en l'adaptant. Une première chose, c'est que tout le monde, au 25e siècle, tous les adultes, sont des doctorants. Ils ont tous fait des études supérieures et dans le domaine théorique. Quel qu'il soit, ça peut être l'ingénierie, ça peut être l'agriculture, l'agronomie, ça peut être dans le cas de prudence, l'archéologue, la médecine, enfin bon, toutes les sciences. Tout le monde a, on va dire, un doctorat et poursuit tout au long de sa vie, c'est cette prospective intellectuelle. En tout cas, tout le monde a un même niveau d'études. Alors, est-ce que c'est la condition pour vivre une harmonie? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est écrit. Et une deuxième chose, ils ont tous au moins une tâche, ou voire plusieurs, ça n'a pas encore été déterminé, dans le cadre de ce que j'ai appelé le care, qui est un terme anglo-saxon, qui veut dire soin au sens très large. C'est-à-dire que le care, c'est... Je choisis ce terme parce que ce sont des théoriciennes anglo-saxonnes qui l'ont utilisé, qui l'ont développé. Au sens large, c'est... le soin, c'est bon... soigner des gens, être infirmière, travailler dans une maison de retraite, évidemment, médecin, mais c'est aussi nettoyer, faire que les choses fonctionnent. Et au-delà de ça, le care, c'est par exemple fabriquer une bonne chaise qui soit stable, efficace, qui dure longtemps. C'est de l'ordre du care. En gros, ce qui est écrit maintenant, dans ce futur, c'est que le care est ce qui a quelque part remplacé un peu la notion de profit. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait dans le soin de la communauté, par chacun. Des personnes, on a beau être docteur en astronomie, on passe le balai. Voilà. On a au moins ça. Ça, c'est qui déjà est un peu écrit dans ce futur, que vous pourrez aller consulter si ça vous intéresse d'aller plus loin. Et voilà. Je ne vais pas en dire plus. Maintenant, mon job, c'est de me taire et d'enregistrer ce qui est déjà parti, et donc de vous poser la question, comment, à travers ces images, si elles vous parlent, à travers les textes, quand vous aurez peut-être pris le temps, donc plus tard, évidemment tout ça, on peut revenir, hein, vous pouvez m'écrire, vous pouvez renvoyer des enregistrements, dire voilà, oui moi j'ai lu ça, ça me fait penser à ça, ou moi j'ai rien lu de tout ça, mais je pense que pour arriver à une harmonie, il faudrait ça. La parole est à vous. Est-ce que vous attendiez
si tu veux.
Non.
Est-ce que vous attendiez à cela déjà?
Non, mais alors spontanément, je vais me lancer, hein, alors forcément j'aurais plus d'idées en réfléchissant davantage, mais pour moi l'âge d'or au 25e siècle, ça, c'est cette période, c'est une harmonie totale entre les êtres humains, la nature, les animaux, donc pour moi il n'y aura plus d'argent, ça sera plus du troc.
Ouais.
Donc, comme vous l'évoquiez, effectivement, un médecin pourra passer le balai. Il y aura plus de barrières sociales.
Plus de spécialisation. Donc,
plus de classe sociale.
Oui, enfin, pour moi, non, il n'y aura plus de classe sociale. Tout le monde sera à peu près au même niveau. Et il y aura un petit peu plus de solidarité qu'aujourd'hui. Et de bienveillance, bien entendu. Et pour moi, oui, on vivra plus proche... de la nature, des énergies.
Okay.
Qui sont les pierres, qui sont...
Il y a beaucoup de choses là déjà, donc
effectivement... Bah oui, alors après c'est peut-être utopique, mais en tout cas...
ça n'a rien d'utopique dans le sens où... Bah, une utopie, c'est un lieu qui n'existe pas.
Non, non.
Là, c'est un temps qui n'existe pas encore.
C'est ça,
et surtout, c'est une construction. C'est-à-dire qu'évidemment, si personne ne s'y met, ça n'arrivera jamais. Si les gens autour de cette table, et tous les gens qui vont venir autour de cette table... autour des générations à venir, puisqu'évidemment, quand je dis que je suis copromoteur, je ne serai pas seul. Moi, je vais mourir, de toute façon. Il y aura d'autres personnes qui... Voilà. L'idée, c'est de se projeter au-delà de notre futur proche. Dans le sens où, bon, c'est vrai qu'il est plus... Je pense qu'il peut être plus facile d'imaginer, de dire, voilà, si vous me dites, demain, ça va aller mieux si on n'a pas d'argent, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord.
Non, sûrement pas.
Dans 400 ans, oui.
Oui. Mais vous voyez, il y a une période qui n'est pas si, qui est pas si lointaine, hein. Il y a à peu près une quarantaine d'années. On appelait ça les artisans, les castors. Alors, il y en avait un petit peu partout en France. Oui, c'était les artisans. Alors, tu avais un couvreur, tu avais un maçon. Et puis, ils ont construit leur maison comme ça en échangeant leurs talents. Donc, le maçon faisait toute la maçonnerie d'un quartier. Et puis, le couvreur, tous les toits. Et donc, ça revenait... c'était très, très économique. Et puis il y avait cette notion de solidarité, d'entraide qui était très forte. Donc on n'a rien inventé. Après, on a dévié sur une économie un petit peu néfaste, hein, si on peut dire.
Oui, donc effectivement, cette notion donc, d'économie est importante. Effectivement, y aura-t-il... Est-ce que le problème, c'est l'argent? Est-ce que c'est la propriété? Est-ce que c'est...
On a l'impression qu'aujourd'hui, dans ce monde, l'argent pourrit tout.
Ouais.
Ouais. Mm-hmm. Alors après, il ne faut pas généraliser. Il y a des personnes qui gèrent très bien leur argent, qui en font profiter les autres. Mais malheureusement, je ne pense pas que c'est la majorité. Et l'argent pourrit tout. Et on le voit dans le travail, parce que certains, pour gagner 50 euros de plus tous les mois, ils sont prêts à enfoncer leurs collègues. Et donc, c'est ça qui est...
Qu'est-ce qui va permettre, on va dire dans 400 ans, mais bon, qu'à un moment donné, cet état d'esprit... c'est l'argent, d'après vous, qui vraiment fait que les gens se marchent dessus? Ou est-ce que les gens se marchent dessus?
Ça y contribue.
Ça y contribue.
Ça y contribue. Alors, ce n'est pas le seul facteur, entendu.
Effectivement.
C'est un facteur. Alors, peut-être c'est moins prononcé, peut-être ici, au Pont de Montvert, que...
Je ne sais pas.
Qu'en ville, mais... moi qui vis en région parisienne, je vois un petit peu, et puis il y a toujours l'apparence, et c'est toujours à celui qui montre ce qu'il a de plus que les autres. Donc,
La notion d'apparence, oui, alors j'ai envie de poser une question, parce qu'on parlait du Pont de Montvert. Alors, je ne sais pas du tout si l'argent a plus d'importance à Paris qu'au Pont de Montvert. Pour moi, à mon avis, on vit à peu près dans le même temps, espace-temps. Mais après, il y a des choses qui changent, mais il y a peut-être un autre rapport à la nature, ça c'est certain. Imaginez-vous, une question comme ça, donc il y a un âge d'or dans 400 ans à Pont de Montvert, qu'est-ce qui se passe à Florac, par exemple, ou à Alès? C'est l'âge d'or aussi?
Pour moi, oui, c'est un âge d'or mondial, hein. c'est pas que le Pont de Montvert.
Pour vous, on ne peut concevoir l'âge d'or que s'il est...
Alors non, parce qu'on peut vivre aussi en autarcie, hein. C'est pas...
Oui, jusqu'à
un... jusqu'à un certain niveau, mais bon, c'est plus...
A priori, c'est plutôt... Ok, parfait.
Ça serait plutôt mondial, mais bon, ici, on le voit, les gens sont peut-être plus pauvres, mais ils sont plus honnêtes et puis plus généreux. On en croise, ils sortent de leur potager, ils vous proposent une salade, alors qu'ils n'ont pas des gros moyens, alors qu'en ville, ils brassent certains des millions. Et puis,
Donc ce qui ferait un âge d'or, c'est peut-être une question d'échelle, une question de... que les gens se connaissent, que les gens...
Apprennent à communiquer un petit peu plus, parce que comme vous le savez, en ville, y a une promiscuité indéniable, les personnes ne se connaissent pas. Souvent, la personne qui vit seule, qui décède, on le sait 15 jours après, parce qu'il commence à y avoir des odeurs dans l'appartement. Alors qu'ici, les maisons sont souvent plus éloignées, et il y a quand même une relation plus proche.
Et de grandes difficultés, effectivement, à se parler à partir du moment où ils n'ont pas les mêmes opinions.
Oui.
C'est ce que j'ai constaté de Belgique, puisque, en général, même si je suis français, je réside pour l'instant en grande partie en Belgique.
Oui.
Donc, là, cette notion de communication importante.
Oui, je pense, oui.
En tout cas, le lieu qui s'appelle centraisoracle.org est le lieu de communication ou d'échange culturel de base, c'est ce qui va rester de notre Internet en 2413. Là encore, ce qui est imaginé pour l'instant, tout ça peut bouger. Et effectivement, tout le monde a accès à cette information et tout le monde est au courant de ce qui est dit, de ce qui est débattu sur les oracles, sur ces découvertes, etc. Donc c'est là aussi sur ce blog du futur qui est déjà présent que vous pourrez aller voir ceci.
Mmh. Okay. Parce que vous voyez, Internet, on dit que ça nous rapproche des personnes qui sont loin, mais ça nous éloigne de celles qui sont proches.
Oui.
Donc il y a du...
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui. Ce qui est inacceptable, c'est quand vous êtes dans un repas de famille, et puis que... Alors nous, ça ne nous arrive pas, parce qu'on a de la chance, on a une famille encore qui est sur les traditions, mais tout le monde est sur son téléphone, et puis on ne communique plus. Ça, on sait que ça existe aujourd'hui. Hein. Alors après, bon, on peut regarder de temps en temps un message, mais de là passer une soirée...
C'est un débat, je veux dire, en tout cas un chantier. Après, le tarot est un chantier dans lequel il y aura plusieurs chantiers qui vont se développer, plusieurs choses d'écriture. Cette notion de la communication est importante, puisque c'est déjà à plusieurs occasions que ça a été évoqué, et notamment quand on était à la bibliothèque, un monsieur qui nous parlait qui lors d'un enterrement, le téléphone qui s'était mis à sonner d'une personne qui répondait.
Oui, il n'y a plus de décence.
Qui mettait plus d'importance finalement. Oui. Voilà, après bon. Donc, une communication inter-individuelle plus importante dans 400 ans, toute manière. Mais... Rapport à la nature aussi.
Oui. Oui, vraiment, vraiment plus proche, et ben, être conscient que les pierres, c'est des énergies, que, et puis se soigner peut-être comme on se soignait à une certaine époque, avec de la médecine un petit peu plus naturelle. Hein, il y avait des herboristes, Après, je ne veux pas monopoliser le débat.
Mes cousins et
ma compagne ont peut-être... sûrement des...
Je ne sais pas, voilà, après, mais c'est... Moi, je suis là pour écouter.
Oui.
Et c'est vrai que, comme souvent, les gens sont surpris, ils ne s'attendent pas forcément à ça.
Non.
Ils n'y ont peut-être pas pensé. Alors, mais par contre, ils ont peut-être des idées. Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait aller mieux d'une façon générale.
Et
après, le fait de se projeter loin, je l'ai, on va dire, mis en place, décidé, parce que ça évite d'être dans des contingences de...
politique ou...
Oui, puis de penser à ses enfants, par exemple, les enfants arrière. Là, on est à 13 générations, plus ou moins, donc on est loin.
C'est plus neutre.
Ben oui, disons, parce que la question, par exemple, est-ce qu'il y a une propriété privée, est-ce qu'il y a une notion d'héritage en 400 ans? Est-ce qu'on peut vivre un âge d'or avec la notion de propriété? Question à poser.
Ouais, pourquoi pas, oui.
Avec une transmission.
Oui.
Je sais pas.
Hein. Ouais, moi
c'est voilà,
pourquoi pas,
pourquoi pas? Mais propriétaire de quoi?
Propriétaire de sa maison,
Mais je dirais plus dans la transmission de valeurs.
De valeur, héritage au niveau
de
transmission de valeur.
Mais de valeur, morale.
Oui, voilà. Tout à fait. Effectivement, à un moment donné, quand une personne a une très très grosse somme d'argent et une personne n'en a pas, peut-il y avoir harmonie? Effectivement, on a parlé de classe. La classe, les classes sociales se sont basées pour beaucoup sur des questions de possession, en tout cas pour l'instant. Ça peut se faire sur d'autres bases, il y a eu des classes. Mais oui, des valeurs. Donc effectivement, on transmet une réputation peut-être plus, je ne sais pas, ou des valeurs,
moi je pense qu'au-delà, ça peut être aussi une remise à plat, parce qu'on se rend compte quand même qu'on vit dans une époque pleine d'incertitudes où les gens sont quand même hyper stressés. Je trouve quand même parfois un peu à la limite au bord du chaos, alors que ça soit en France ou à l'échelle mondiale, avec les guerres en Ukraine, à Gaza. Là, on a quand même notre président de la République qui a décidé donc de chambouler, de renverser l'Assemblée nationale. Ça a généré quand même un stress assez conséquent chez pas mal de personnes. Il y a eu les Jeux Olympiques, ok, ça a calmé le jeu, mais là, on sait pertinemment que ça va reprendre. Voilà, on vit vraiment dans un monde assez, pour moi, anxiogène. Et voilà, on dit depuis des années, ça va craquer, mais effectivement, je suis persuadée qu'à un moment, ça va vraiment craquer.
Ça va exploser.
Parce que toutes ces histoires aussi, de richesse, de valeur, pour moi, ça va bien plus au-delà que ces répartitions, puisqu'il y a tout ce système aussi donc, de religion.
Oui.
Et la religion, elle a vraiment une importance, où elle amène aussi des guerres, mais elle amène ça. Ça a toujours amené des guerres, de tout temps, depuis les croisades et tout.
Oui.
Et effectivement, c'est quand même un...
Ça fait partie aussi des questions qui se posent. Y aura-t-il des religions dans 400 ans si on veut vivre un âge d'or ?
Pour une religion universelle.
Après, bon, religion, moi je sais que, bon après c'est personnel, mais effectivement j'ai tendance à, finalement, les religions polythéistes ont été moins violentes finalement, peut-être, que celles où il y avait un seul dieu, quand il y en avait plusieurs, et dans d'autres, il y a énormément, et il existe encore des personnes qui sont animistes, effectivement, qui ont donc un autre rapport à la spiritualité. Et en tout cas, c'est vrai que, notez le fait que les religions et guerres vont très bien ensemble, comme nationalisme et guerre vont très bien ensemble, dans le sens où les États-nations, quelque part, ont été créés pour, quelque part pour ça. Oui, y aura-t-il...
Mais par contre, excusez-moi, moi je voudrais juste savoir quand même pour bien comprendre, parce que c'est, entre guillemets, c'est ça ma première question avant de voir le futur, c'est que finalement, vous êtes le concepteur, finalement, donc de tous ces oracles, de ces messages, et que finalement, un peu comme on voit les artisans sur Notre-Dame, qui vont glisser un journal, qui vont glisser un petit mot, sous une toile en zinc, pour que dans 100 ans, finalement, quand on viendra finalement refaire des travaux, il y a une transmission. Finalement, vous êtes dans cette démarche-là, puisque vous avez donc collé dans votre salle d'eau, pour que ça soit découvert dans X années. On est bien sur ce principe, j'ai bien saisi pour moi, pour
mes... Oui, tout à fait. Comment dire, mon principe, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, c'est pas
un... Non, mais vous êtes un passeur prophète.
L'idée, c'est de mettre en place quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose qui se mette en place, enfin, qu'il y ait une dynamique.
D'accord.
C'est vrai, le terme de promoteur, je l'aime bien, parce que c'est un promoteur, c'est en chimie, c'est un petit agent chimique qui va enclencher une réaction, et voilà. Après, effectivement, moi je mets en place des choses pour faire rêver les gens.
Oui.
Il est évident que quand j'amène les gens dans la salle de bain, c'est pour demander qu'est-ce qui se passe.
C'est pour concrétiser finalement.
C'est à la fois, c'est dire que c'est clairement, ce n'est pas utopique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée de réaliser. C'est un atelier. Je veux une façon aussi de l'exprimer, c'est un atelier d'écriture et de réalisation d'âge d'or. C'est-à-dire qu'il y a ce terme de réalisation, il y a effectivement, dans la façon la plus poétique qui soit, je veux dire, il n'y a aucune volonté de dictature derrière ça, de la façon la plus poétique qui soit, de maîtrise, je travaille avec d'autres personnes, avec vous, à un futur dans 400 ans. Voilà. C'est de la poésie. Et je passe, les premières images... Effectivement, je suis le producteur. Les premiers textes, j'en suis le producteur aussi. On va dire que c'est la base, c'est un travail artistique, mais qui est un travail qui se veut... Moi, je vais m'arrêter de produire des oracles. Maintenant, ce que je vais mettre en place, donc là, c'est des ateliers de consultation. Le livre-objet, l'ensemble de ces artefacts, date de 2020, période de Covid, où j'ai eu pas mal de temps pour y travailler, mais peu de temps pour le présenter. Et je dirais, ce qui évolue depuis, c'est qu'effectivement, moi, je vais m'arrêter de produire ces éléments, éventuellement les diffuser, mais c'est surtout faire des ateliers pour aller un peu plus loin. C'est-à-dire, là, on est en consultation, on peut imaginer des résidences plus ou moins artistiques, philosophiques, où les gens vont s'atteler à des chantiers. Donc, comme des ateliers d'écriture en 4, 5, 6 journées, et produire des oracles. Alors après, qui va décider qui seront les prochains, qui va raconter la suite de l'histoire? Moi, je suis au début du ouais. Mais c'est bon, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est vos paroles, c'est vos réactions. C'est super intéressant. Je veux dire qu'à un moment donné, on remet en cause des choses comme l'argent, comme éventuellement la manière dont on répartit les richesses, dont on communique, dont on... il est important, je pense, d'en parler, et d'en parler parfois à très long terme, et parfois d'imaginer des choses, la famille, qu'est-ce que la famille dans 400 ans? Et un doctorat, dans 400 ans, c'est quoi? Il y a 400 ans, c'est pas la même chose que maintenant, un doctorat. Qu'est-ce que ce sera?
On le voit déjà avec un certificat d'études. Moi, je sais que ma grand-mère, quand même, qui a eu certificat d'études, ça lui a permis d'être institutrice et tout, et c'était quand même quand on était à un certain niveau. Maintenant, un certificat d'études, entre guillemets, c'est assimilé à un brevet, et ça vaut pas, ça ne vaut plus grand-chose. La valeur, mais comme le bac, finalement, le bac, il y a 20 ans, c'était un sésame. Bon, maintenant, le bac, c'est bien de l'avoir, mais si on ne l'a pas, ça n'empêche pas de réussir dans la vie. Donc finalement, il y a une chronologie qui mécaniquement...
Tout à fait. Installée. Je pense que c'est l'idée des personnes qui ont proposé ce doctorat généralisé, ce niveau d'études, c'est qu'à un moment donné, soit on voit l'éducation comme un système de sélection, et on dit, toi tu es capable de faire plombier zingueur, et toi tu es capable de faire l'ENA, et tu vas diriger la France, n'est pas présent en 2413, très clairement. C'est parce qu'effectivement, quelles que soient les personnes ont les moyens intellectuel, on leur donne le temps, même si, peu importe ce que ça peut coûter, mais qu'en tout cas, on leur donne le temps d'avoir un avis sur la gouvernance. Ils ont le même... c'est pas parce que pour l'instant, je pense que les énarques ont tendance à dire, nous, on sait comment gouverner, on connaît les mécanismes économiques, vous savez, ça. Là, non. Les choses sont, on va dire, plus planes. Et effectivement... Ce doctorat généralisé, c'est pas comme on voyait peut-être le bac maintenant qui est généralisé, où effectivement la notion où on a perdu peut-être une qualité, mais ce qui reste dans l'éducation actuelle, c'est un système de sélection. Vous êtes bien d'accord? Moi j'ai été un petit peu enseignant, j'ai très bien vu que il y a des gens qui... On est là pour faire, toi tu iras là-bas, toi tu restes ici, et surtout toi tu restes... très clairement, on ne cherche pas à transmettre une connaissance généralisée et des moyens de s'exprimer. Quand j'ai présenté ce tarot, on m'a parlé des élections par tirage au sort. Ça peut être une des solutions.
Oui.
Mais pour qu'on puisse choisir un gouvernant ou quelqu'un qui a un rôle administratif important par tirage au sort, il est important que tout le monde ait un même niveau de compétence au niveau gestion des choses.
Parce que là, je vois, dans les années 80-90, on a dénigré certains métiers, parce qu'un élève qui avait du mal à suivre dans le système scolaire classique, on l'envoyait sur un lycée professionnel qui était considéré comme une voie de garage.
Tout à fait.
Alors qu'il pouvait faire électricien, plombier, mécanicien. Et aujourd'hui, on y revient, parce qu'on se rend compte que c'est des personnes qui ont de l'or dans les mains et qui réussissent leur carrière professionnelle bien mieux que certains qui sont restés dans le réseau classique. Ouais.
C'est dans ce sens-là où, effectivement, dans ce futur imaginé, c'est la notion d'être plombier ou d'être médecin, c'est la même chose. Parce que on soigne la vie des gens en leur mettant en... sauver la vie de quelqu'un, c'est important, mais si cette personne ne peut pas se laver ou n'a pas l'hygiène ou n'a pas,
c'est du concret.
C'est quelque chose d'effectivement très concret. Le fait qu'après tout le monde ait un doctorat, c'est quelque part un plus. C'est qu'à un moment donné, tout le monde développe une activité intellectuelle dans le secteur qui l'intéresse. Et surtout, ne sera jamais... prise d'eau par rapport à un niveau d'études.
Il y a tout ça. C'était quoi la question de base déjà?
Comment quelle proposition dans n'importe quel sens, que ce soit au niveau...
J'en vois qu'une, c'est pas forcément la meilleure.
Oui.
C'est que il y a une grande destruction de l'humanité.
Qu'on reparte à zéro.
Pas repartir à zéro.
Tout s'éteint et tout, parce que pour moi la surpopulation, c'est le plus gros défaut qu'il y a actuellement.
Un problème.
C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre entre nous.
Ouais.
Ou alors qu'il faudrait qu'on trouve un ennemi commun.
Oui, les extraterrestres, c'est ça.
Non, pas forcément les extraterrestres, ou autre chose. Ouais. Mais un moyen de s'unir. Oui. Mais pour moi, la chute de la population, c'est la meilleure solution. Ouais. Après, c'est toujours pareil, en tant que personne égoïste, j'aimerais que ce soit tout le monde, sauf mes amis, ma famille. Ouais.
Voilà, mais simplement, je pense que quand on va mettre en... Si on met en jeu ce type de mécanisme, de, on va dire, de guerre ou de destruction, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va nous retomber dessus. Après, oui.
Après, il fait une destruction, pas forcément par la guerre, une extinction, que la planète voilà. chasse de là.
C'est pour
comme
ça.
C'est la chute de la population.
Une météorite.
C'est voilà. Ouais. En tout cas, la notion de gestion de population est quelque chose qui serait important pour arriver à cette. Oui, effectivement. Pour l'instant, je dirais, on n'a pas. Je dirais, tout ce qui est permis de faire pour sauver des vies ou pour nourrir des gens est fait. Et sans se poser la question de savoir si effectivement une naissance peut être utile ou pas à la population. Effectivement, voilà, je projette toujours dans ce futur parce que je pense que c'est ça où il faut. C'est ce qui nous permet aussi de pouvoir pas trop souffrir non plus de ce qu'on va dire et de ce qu'on met en place, c'est qu'effectivement. Peut-être que dans 400 ans, il serait important de gérer la population et comment.
De la réguler.
De réguler, Et se pose effectivement la notion de liberté. Qui a le droit de, comment.
Mais comme ça a été le cas en Chine il y a quelques années, hein, ils n'avaient pas le droit de faire tout plus à fait. De tant d'enfants. Tout à fait.
Ça a été beaucoup décrié.
Oui. Mais moi, quand je vois. C'est pas pour critiquer, mais quand je vois en Afrique la surpopulation, alors que derrière ils n'ont pas les moyens de se nourrir entre eux, il y a un moment, faut peut-être prendre des bonnes décisions en disant est-ce que ça vaut, est-ce que c'est intéressant de faire 10 gamins quand on peut en nourrir que deux.
Tout à fait. Après, l'Afrique, c'est ce qui est particulier, c'est qu'effectivement.
Il y a encore le côté religieux, on veut pas la.
Oui, c'est sûr que si vous faites un enfant en Europe, ça va coûter énormément. En Afrique, ça ne coûte pas grand-chose. Au contraire, c'est parfois même un patrimoine. Même si les gens mangent très peu, vivent mal, sont dans des conditions de survie, c'est parfois important d'avoir cette population. Et quelque part, pour la planète, elle est peut-être beaucoup moins dérangeante qu'une surpopulation occidentale qui consomme comme...
Moins polluante.
Effectivement, si on se dit, si tout le monde maintenant, on est combien de milliards, je crois, sur Terre ? Si on veut arriver à vivre comme, disons, des Français, pour parler de ce qu'on connaît, il y a un problème très gros. Après, comment ? C'est pour ça que la petite extinction est un terme que j'ai est un concept qui est complet. Alors la petite extinction, tout ce que j'ai écrit est écrit à minima, pour que vous puissiez l'investir et le développer. Petite extinction, je prends la lumière, je l'éteins, c'est une petite extinction. L'humanité disparaît c'est peut-être ça, à 90%, c'est peut-être ça la petite extinction, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que ça fait partie, effectivement, en tout cas. C'est peut-être ce qui sera la solution pour dans 400 ans, mais la question c'est dans 400 ans, comment on va faire. Effectivement, c'est ça que voilà. C'est un peu l'idée, mais bon, réguler la population,
Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est bien ici ? Parce qu'il y a moins de monde, c'est agréable. Quand on va à la plage, il y a trop de monde. Je dis putain, c'est chiant, tout le monde se casse les couilles. Regardes tout un peu l'IA. Je ne sais pas si c'est la solution ultime.
Mais je veux dire, gérer la population, gérer les rapports humains, ça me semble effectivement quelque chose d'important. Et effectivement, il faudra se poser la question du comment. Si on se dit une harmonie ici au 25e siècle, idem à Florac, idem dans le monde entier, voyons, faut voir grand, on est dans la fiction, on est loin de toutes les contingences actuelles, donc effectivement il y aura une façon de pouvoir aussi communiquer entre peut-être des populations parfois très, très lointaines, sans forcément partir en voyage à Acapulco pour un petit week-end. Mais bon, l'idée peut être... qu'est-ce qui peut être important au niveau de la communication mondiale. Voilà. Est-ce que mondialisation, ben maintenant, je crois qu'on ne pourra plus la nier. Hein, je veux dire, la Terre n'est pas plate, même contrairement à ce que certaines personnes essaient de nous faire croire. Et voilà, et on sait qu'il y a des populations sur la Terre entière. C'est important peut-être que un nouveau rapport se mette en place entre ces différents groupes. De quel ordre ? Là encore, c'est un chantier à ouvrir et qui va se mettre en place. Voilà.
Après, on voit quand même, enfin, j'extrapole un petit peu, mais il y a des émissions, je ne sais pas si vous connaissez, si c'est diffusé chez vous quand vous êtes en Belgique, mais qui s'appelle Voyage en terre inconnue, où ils vont finalement voir des peuplades qui sont à l'autre bout de la banquise ou de l'Afrique, et qui finalement arrivent encore, ils sont vraiment mais dans des endroits à des heures et des heures de marche, et tout. Et
les autochtones,
qui sont encore, on va dire, préservés, qui ont leur propre monnaie, qui ont leurs propres coutumes, qui ont leur chef de tribu, et qui sont quand même bien éloignés de, voilà, de notre civilisation, des civilisations modernes.
Pour un mieux pour vous ou pour
Je pense qu'ils sont peut-être, entre guillemets, plus heureux que nous, parce que... ils ont moins de besoins, c'est sûr. Parce qu'on me disait, voilà, l'argent chez nous, ça pourrit tout. Pourquoi ? Parce qu'on s'est créé un maximum de besoins. Parce que maintenant, si on n'a pas son téléphone portable, si on n'a pas un abonnement Internet, il y a des démarches qu'on va pouvoir faire. Alors oui, certaines personnes s'en passent. Mais entre guillemets, on se rend compte que la normalité, entre guillemets, c'est quand même d'avoir... son portable, les gens sont un peu exclus. Et rien qu'avec les enfants à l'école, finalement, parce qu'il y a des parents qui se disent « Non, moi, mon gamin, il n'aura pas de portable avant 12 ans, avant de rentrer au collège. » Et le gamin, il a une telle pression à l'école, il se fait tellement moquer par ses petits camarades, voire même être rejeté, hein, parce qu'il n'est pas dans cette normalité, qui ne devrait même pas être une normalité. On se rend compte que parfois, on se fait rattraper, quoi. On a des principes, on a des valeurs, mais si on veut assurer un certain bien-être, eh ben, on est obligé de céder.
Donc si je comprends bien, ces populations dont beaucoup ont été éliminées, exterminées, on parle des autochtones amérindiens, Amérique Nord-Sud, etc. Donc certaines valeurs encore existantes dans ces populations pourraient être d'éventuelles... pas modèle, mais inspiration pour...
Voilà, alors après, ils vivent sûrement moins longtemps que nous, parce qu'ils n'ont pas toute la médecine qu'on a actuellement. Eux, ils vont se soigner par les plantes et tout. Alors, c'est vrai que finalement, c'est à double tranchant, parce que nous, on a des médicaments et tout, mais quelque part, on s'empoisonne aussi. Ça sauve des vies. Mais d'un autre côté, on sait que quand on prend quelqu'un qui va faire un traitement pour une chimio, ça va lui abîmer pas mal. Il y aura des dégâts collatéraux, comme on dit. Donc,
Donc effectivement, ils vivent
peut-être moins longtemps, mais ils vivent peut-être mieux. Alors je dis pas qu'on retourne à l'âge de pierre de Cro-Magnon.
C'est pas ce qui est dit, en tout cas, dans cet âge d'or. Parce que bon, là, je dirais, pour l'anecdote, parmi les personnes qui ont... qui sont intervenues, une personne m'a dit, je vois dans 400 ans une très grande importance à l'intelligence artificielle. Alors bon, évidemment, ça m'a quelque part à la fois un peu surpris. Mais bon, je dirais pourquoi pas. Mais pour qui et pour combien de personnes?
Je pense qu'on essaye de la freiner, cette intelligence artificielle, en ce moment.
Mais quand on voit que l'intelligence artificielle est en train de phagocyter l'intelligence réelle, c'est inquiétant.
C'est inquiétant parce que...
Et surtout,
on ne réfléchit plus. Maintenant, on se dit c'est l'ordinateur qui va réfléchir pour nous. Qui va faire un choix, c'est dommage.
Ce que j'ai relevé par rapport à la personne, c'est que moi, je n'ai pas d'interdit, là encore, c'est vous qui parlez, c'est pas moi, mais c'est clair que, par exemple, l'intelligence artificielle consomme énormément d'énergie au niveau serveur, fonctionnement. Vous posez à ChatGPT une requête, ça fait tourner beaucoup plus encore que d'utiliser des emails, beaucoup plus que de regarder des vidéos, etc. etc. Donc, oui, intelligence artificielle, peut-être, mais pour qui? Pourquoi? Comment? À quel usage? Est-ce que ça va apporter l'harmonie? Et est-ce que ça... Voilà. Mais bon, là encore, c'est pour ça que Oui, alors ce monde de utopique de 400 de 400 ans, il est, comment dire, voilà, on peut l'imaginer très technologique, comme on peut l'imaginer à minima. Pour l'instant, à minima, il y a quelque chose qui ressemble, pour ceux qui l'ont connu, au Minitel. Voilà. C'est-à-dire une interface en mode texte auquel tout le monde a accès. Ça fait partie, là encore, de tout adulte a accès au Cyclades, à l'adresse, vous pouvez aller consulter l'adresse 113oracle.org.
Parce que pour moi, aujourd'hui, on subit le progrès, on ne le maîtrise pas. Quand au travail, vous recevez une cinquantaine de mails par jour, voire plus, bah, vous le subissez tout ça, c'est pas maîtrisé. Donc,
c'est le principe.
Puis on réfléchit pas, on se dit, enfin, de façon générale, on pourrait se dire, est-ce que c'est opportun de mettre en copie tel destinataire ? Non, tout ça, c'est pas maîtrisé. Donc, au lieu d'en recevoir, je sais pas, 10 intéressants par jour, on en reçoit 60 et on perd du temps à filtrer.
Ben moi, je perds même plus de temps, parce que là, je ne veux pas.
Oui, ça tue la communication.
Et la communication, il n'y a plus. Moi, je sais qu'effectivement, je suis parfois très déçu qu'on ne reçoit, qu'on ne regarde pas mes emails, mais en sachant comment ça se passe, comment les gens sont inondés, effectivement.
Oui.
Voilà. Donc, mais bon, c'est aussi la question de notre fonctionnement. Je veux dire, le système libéral actuel, c'est clairement, si on peut le faire, on le fait.
Et puis les gens se dédouanent. Ah, mais comment ça, t'es pas au courant? Mais si, je t'ai envoyé un mail. Donc c'est facile, c'est hop, j'ai la trace écrite, donc on est sens. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche.
C'est...
Et ça coupe finalement la communication orale, où les gens avant faisaient un effort de se voir, d'aller dans un bureau et tout. Ah ben non, du moment que moi je suis en vacances, je sais que je vais rentrer, ma boîte va exploser. Elle va tellement exploser, mais maintenant j'en ai tellement finalement entre guillemets rien à fiche que ça va partir directement à la corbeille parce que je me dis finalement, ben j'étais pas là et j'étais pas là. Pour moi, c'est déjà du passé. Je me dis s'il y a quelque chose d'important, à un moment, si j'ai raté un truc, il y a bien quelqu'un qui saura me le dire. Donc pourquoi moi je vais perdre du temps et de l'énergie à aller finalement refaire un retour sur le passé? Avant je l'aurais fait. Maintenant, j'ai changé de philosophie de vie, ça ne m'intéresse plus. Mais je vis, entre guillemets, l'instant présent, un peu de futur, mais pas trop, parce que de toute façon, ce n'est pas la peine de se projeter trop loin non plus.
Merci en 2400.
Ah. Oui, alors, là, sur le contexte, mais pas dans, entre guillemets, pas dans ma vie de tous les jours.
Oui, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai choisi un terme de 400 ans.
Oui.
C'est parce qu'effectivement, le vivre au moment présent est intéressant. Je pense que c'est intéressant de vivre au moment présent en ayant une idée d'un au-delà de ce que d'un idéal voilà.
Parce que notre futur on le maîtrise même pas, je peux même pas me dire voilà, j'aurai 52 ans dans quelques mois, je peux même pas me dire à l'heure actuelle je vais faire des projets pour ma retraite parce que finalement quand on voit avec ce qui se passe en France et que vous avez suivi avec toutes les manifs et tout nous auxquels on a participé, mon temps libre, la gestion de mon temps libre, je ne sais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vraiment pleinement en profiter. Comment je peux me projeter sur un futur à X années? Voilà, est-ce que j'aurai ma retraite à 60 ans, à 62 ans, à 64, à 67, voire 70? Donc je n'ai pas envie de me projeter.
Oui, alors, ça je crois qu'effectivement. Mais par contre, intéressant de se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer une personne qui a, on va dire, qui arrive comment vivra-t-elle dans 400 ans, en fin de vie, pour que ça se passe bien?
C'est ça.
Est-ce qu'elle aura une importance pour les autres? Est-ce qu'elle aura un revenu? Est-ce qu'elle aura effectivement? Pour l'instant, on se rend compte que c'est extrêmement difficile de se projeter, parce que extrêmement anxiogène, on en a parlé.
Mais j'espère que les mentalités vont changer. Parce que même si on disait sur la médecine, si aujourd'hui, voilà, on a plein de médicaments, on développe aussi donc finalement des processus, des machines et tout qui sont au top du top, mais quand on regarde bien, il y a combien de personnes qui peuvent en bénéficier? Finalement pas grand monde. Et quand vous allez quand même à l'hôpital et qu'on voit qu'on va faire un tri en disant bon ouais bah lui il a 35 ans, ok il vient d'avoir un grave accident donc on va tout faire pour le soigner, et là ah ouais non bah là la personne elle a 85 ans, il est mal barré. Oh non, allez, financièrement, ça va coûter trop cher, on va privilégier la personne de 35 ans. Alors, je peux comprendre que dans une certaine moralité, on va se dire, bon, elle a fait sa vie, lui, on va tout faire pour le sauver. Mais c'est pas normal quand même de ne pas mettre les choses en place pour la personne qui a 80 ans, et pour les proches de cette personne aussi, parce que cette personne, elle aura autant d'importance.
Et effectivement, on ne peut pas imaginer une harmonie dans ce type de situation. On ne peut imaginer que du stress. Donc c'est effectivement ce type de choses qu'il faut voir, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de ça, de cette sélection, de cette... finalement, il y a un côté de, entre guillemets, de profit qui est important, ou de rentabilisation. Effectivement, on n'a jamais été jamais aussi bien soigné que l'on est à l'heure actuelle, mais qui sur la planète?
Et on en revient toujours à la question de l'argent. Hein.
Et... En tout cas, de cette notion de profit, et quelque part de liberté absolue que nous avons, de on peut le faire, on le fait. On peut envoyer des touristes sur Mars, on va envoyer des touristes sur Mars. Peu importe ce que ça coûte au reste du monde. La liberté, le terme de liberté est sans doute un des termes le plus important à interroger, parce que, et très souvent ça se passe aussi autour de cette table, parce que voilà, on imagine qu'à un moment donné, il faudra restreindre, certains pourront utiliser telle chose, d'autres pas. Qui va décider, pour qui? Oui, mais moi, je n'ai pas envie qu'on m'empêche de. Ah, c'est ça qu'il faut. Dans 400 ans, est-ce qu'on pourra empêcher, et comment? Et comment pourrons-nous le faire accepter aussi?
400 ans.
Ben, ça revient un peu à tout ça, finalement, parce que qu'on soit tous égaux, s'il faut une harmonie parfaite. C'est l'égalité qui
En tout cas, une égalité de traitement, si on n'est pas une égalité
De traitement, mais comme vous dites, voilà, le doctorat, que tout le monde soit au même niveau d'études, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une question d'argent, parce que pour moi, l'argent, c'est le pouvoir, et c'est ce qui fait qu'il n'y ait pas cette harmonie. Donc je pense qu'il ne faudrait pas d'argent, notre manière, le droit, voilà, tout ça. Et je pense, du coup, revenir à l'état... Moi, je reculerais, en fait. C'est-à-dire, je reviendrais à l'état... primaire, comme nos grands-parents, nature, se rapprocher au maximum de la nature. Après, harmonie entre les hommes et les animaux également, là c'est quand même compliqué. Parce que même quand on recule, pour se nourrir, on a besoin, donc ça j'arrive pas à trouver. Voilà.
Voilà, après, c'est des choses... Alors, faut-il être végétarien pour vivre la moitié? Moi, là encore, je n'ai aucun dogme à défendre. Moi-même, je ne le suis pas. Après, c'est un postulat. Mais c'est vrai qu'on peut aussi penser à d'autres manières de gérer la condition animale, tout en sachant que c'est quand même très important de manger de la viande.
Mais la chaîne, quoi.
Ouais, voilà.
Mais parce qu'on peut dire, t'es végétarien, mais manger de la viande... Mais est-ce qu'il est quand même utile d'aller faire souffrir des animaux, de les saigner, comme le font la religion musulmane? Je vois pas l'intérêt.
Ou même dans les boucheries classiques, les abattoirs.
Les abattoirs et tout.
Voilà, je crois que c'est pas ni plus ni mieux. Oui, voilà. Effectivement, là encore, on peut aller voir dans certaines populations le rapport que les gens avaient avec... la gestion de la mort de l'animal, de ce que ça représentait, de comment il présentait les choses.
Pour moi, l'âge d'or, finalement, personnellement, au-delà de la politique, de toute la religion, tout ça, ça se résumerait à un mot, mais à un mot que je trouve d'ailleurs qu'actuellement, ça s'est vraiment perdu, mais ça s'est vraiment perdu aussi dans le domaine du travail, où on dit que ça révise et tout. Je me dis, c'est un mot qui est banni, c'est la bienveillance. Parce que pour moi, la bienveillance, c'est quelque chose de très important. Voilà, si ça doit résumer l'âge d'or, pour moi, c'est la bienveillance. Et la bienveillance,
sur autrui.
C'est avec les gens, c'est avec les animaux, c'est... Voilà.
J'ai envie de dire, moi, je préfère, même si parfois il est galvaudé, le terme amour. Mais pour moi, c'est je pense qu'on met à peu près la même chose derrière. Effectivement,
c'est prendre soin des autres.
D'ailleurs, je vais vous donner ça. C'est une définition de l'amour, et c'est aussi ma carte de visite. Je vais en profiter aussi pour clôturer cet entretien, qui, je pense, a duré à peu près une heure, plus ou moins. Et pour vous dire un peu comment tout ça évolue et comment ça va évoluer. Oui, c'est Les Choses Imprimées étant la maison d'édition de ce tarot. C'est une définition de l'amour pour les imprimeurs.
Merci.
Donc voilà. Ça vous donnera aussi en même temps l'adresse pour aller voir un peu tout ce qu'on raconte où c'est enregistré. Voilà, je ne sais pas si...
On regardera par curiosité. Voilà. Non, on en a un pour deux.
Vous irez écouter. Voilà, alors que va devenir le tarot? Écoutez, ça va devenir des ateliers d'écriture et de réalisation. On va passer au stade au-delà de la consultation. Alors, comment ce sera financé, parce que ce sera des résidences. Je n'ai absolument rien installé de, des objets que je mets en vente, donc, parce qu'effectivement, je mets en vente des petits jeux de cartes, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, c'est avec plaisir que je vous les montre.
Oui.
Si, voilà, si vous, mais je dois aller les sortir des boîtes, etc. Oui. Si a priori, vous n'êtes pas plus intéressé que ça,
bon, c'est après, pas... on pourra consulter sur...
Voilà,
sur
vous Internet, allez sur le site, puis, n'hésitez pas, parce que les choses sont présentées.
Oui.
Et si à un moment donné, vous voulez acheter, ça se vend aussi par correspondance.
Oui.
Les prix sont affichés, c'est... Si les photos sont assez belles.
Si on peut venir ici directement aussi.
Alors, vous pouvez venir ici directement, mais par contre, moi, je serai parti à partir de dimanche.
D'accord.
Et je serai revenu de toute façon l'été prochain, peut-être cet hiver.
Oui.
Donc voilà, moi, je fais au mieux par rapport à ma profession, à ce que je peux gagner, au fait voilà, d'être ici le plus longtemps possible.
Oui.
Mais bon,
d'accord.
La retraite va bientôt arriver. Hein.
Oui.
Non, même si j'ai pas l'air comme ça.
Non, sans indiscrétion, vous avez quel âge, parce que vous êtes loin encore.
Donnez un chiffre.
Je sais pas.
Oui, je suis loin parce qu'il n'arrête pas de la repousser. Hein.
Oui, non, mais 54
61.
Ah oui
ouais, ouais. Ah
ouais, bah non, vous ne les faites pas.
La génétique,
ouais,
ça.
C'est ça.
Ouais, pour rire, en général, je dis que j'ai passé un pacte avec le diable. Ce côté tarot, comme
oui,
ça, un peu. Non, c'est la génétique. Mon
d'accord.
papa est mort à l'âge de 80 ans avec ses cheveux noirs, quasiment. Donc.
Ah, oui,
voilà.
Vous n'avez pas de cheveux.
Non,
et il n'y a pas de teinture. Tout le monde dit, tu teins les cheveux.
Oui, oui.
Voilà.
Non.